Question d'islam par Ghaleb Benchir. Aujourd'hui, nous parlons d'un penseur, d'un intellectuel qui n'est plus de ce monde, mais c'est un intellectuel contemporain, un penseur Malik Benhabi, et c'est avec Jamal Al-Hamri qui le présentera. Jamal Al-Hamri, bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous faire l'amitié de venir pour la deuxième fois. Comme ça, il y en aura une troisième. J'ai failli dire une seconde fois. Et chez les puristes de la langue française, quand c'est second, il n'y a pas de troisième. Et je vous présente tout de suite pour nos chers amis auditeurs. Vous êtes islamologue, diplômé d'islamologie à l'École pratique des hautes études. Et là, vous êtes diplômé de l'Université ouverte de Catalogne et vous préparez votre diplôme à l'Université de Strasbourg. Et vous présidez l'Académie française de la pensée islamique. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à Malik Benhabi ?
Pourquoi je me suis intéressé à Malik Benhabi ? Je me suis intéressé à Malik Benhabi, je l'ai découvert par hasard. C'était en 2007, donc il y a maintenant 10 ans déjà. Je l'ai rencontré par hasard dans une librairie parisienne. Et j'avais déjà aperçu une ou deux fois son nom. Et en attendant une personne, j'ai acheté deux de ses livres.
Lesquels ?
Alors, c'était un recueil de conférences, donc les grands thèmes, et le problème de la culture. Et donc, les grands thèmes, c'est un recueil de conférences, dont une est sur la civilisation. Et en rentrant en province, parce qu'à l'époque j'habitais en province, dans le train, je lis cette personne dont je ne connais absolument rien. Je ne sais même pas s'il est encore de ce monde ou pas. Mais quand je lis, il a un style très rafraîchissant. Et pour tout vous dire, je pensais qu'il était encore vivant. Et on peut entrer en empathie quand on voit que, un, déjà, il n'est plus de ce monde, et deux, en recherchant un petit peu sur Malik Benhabi, je fais le constat qu'il y a très peu de choses sur sa vie, très peu de livres sur lui. Par contre, ce que je vois, c'est que c'est un grand intellectuel, un grand penseur algérien, et mes amis algériens n'en parlent très peu. Et à partir de là, j'ai commencé un moment à faire mes propres recherches, à essayer de comprendre pourquoi. Et pourquoi on parle davantage d'un France Fanon qu'un Malik Benhabi. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que ce penseur m'a paru beaucoup plus contemporain qu'un certain nombre d'intellectuels musulmans en France qui vivent encore aujourd'hui.
Encore vivant. Alors, simplement pour ponctuer sa trajectoire de vie, donnant les dates, il est né un 1er janvier,
oui.
Un 1er janvier 1905, et puis il est mort un 31 octobre 1973. Oui. Il est né à Constantine, oui. Mort à Alger,
oui.
Mais il a dû pérégriner et voyager, c'était un peu partout de par le monde. Une grande partie de sa vie, il la passe en Algérie sous férule coloniale.
Exactement. Quand on s'intéresse à la vie de Malik Benhabi, c'est quelqu'un qui a traversé les trois quarts du XXe siècle. C'est quelqu'un qui est né en 1905, vous l'avez rappelé, donc à l'apogée du colonialisme, l'apogée de la Troisième République. Il vivra également une deuxième période, c'est l'entre-deux-guerres et l'émergence du mouvement national algérien, avec des gens comme Ferhat Abbas, des gens comme Messali Hadj ou des gens comme Cheikh Ben Badis. Il vivra également une troisième période, celle effectivement de cette guerre de libération nationale. Alors est-ce qu'elle a commencé réellement en 54 ou alors a-t-elle commencé comme le grand historien Mohamed Harbi a dit le 8 mai 1945 ? Je pense qu'à titre personnel qu'elle a commencé dès 1945. Donc cette période de 1945 à 1962, date de l'indépendance de l'Algérie. Et ensuite cette quatrième période, c'est-à-dire l'indépendance, la reconstruction et le développement du pays. Donc Malik Benhabi, c'est quand on s'intéresse déjà à sa vie, on s'intéresse déjà à trois quarts à une grande partie de l'histoire du XXe siècle, avec voilà les effets de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, d'une grande période historique qu'on a malheureusement tendance un peu à sous-estimer, la période de décolonisation, qui quand même met fin à plusieurs siècles de colonisation européenne, et cette reconstruction, le développement, ce qu'on a appelé également la conférence de Bandung, c'est-à-dire la conférence des pays non alignés, et qui voulait reconstruire les pays du Sud, mais qui ne soient pas dans un alignement ni capitaliste américain, ni communiste russe.
Ce qui expliquera aussi une bonne partie de sa vie qu'il a passée au Caire.
Oui, pour l'anecdote, Malek Benhabi, c'est trois pays. L'Algérie, la France, plus d'une vingtaine d'années en France. Et pas qu'à Paris, dans les quartiers latins. C'est très important parce que sa première femme, est une Française qui se convertira à l'islam. Sa belle famille vivra à côté de Dreux, à Luette-Cléré, donc en région centre. Et donc, il sera au contact, si vous voulez, la France de la province, la France des campagnes. C'est quelque chose de très important, on y reviendra tout à l'heure. En fait, quand il décide de quitter la France clandestinement en 1956, c'est pour se rendre à la conférence de Bandung, mais finalement son voyage s'arrête. S'arrête en Égypte. Et à ce moment-là, il est en contact avec les grands de ce pays-là, que ce soit Néguib, que ce soit Sadat ou Nasser. Et donc il arrive dans ce contexte égyptien et il va rester très longtemps. Et en même temps, dans ce contexte égyptien, il sera en contact également avec la délégation extérieure du FLN. Et là, il y a beaucoup de choses qui se jouent. À mesure que ses écrits sont traduits en langue arabe, parce que Malek Benhabi écrit d'abord en français, à mesure que ses ouvrages sont traduits en langue arabe et qu'il est davantage connu et qu'il forme une génération d'étudiants, à mesure qu'il est connu dans le monde arabe, le monde musulman oriental, finalement, il y a une espèce de crispation qui s'est créée avec, déjà en Algérie, avec, on y reviendra peut-être tout à l'heure, avec le terme de la colonisabilité.
Oui, c'est tout un concept auquel on lui consacrera.
Si vous voulez, on lui en voudra encore, alors qu'il a écrit en 49, on lui en voudra encore en 56, on lui en voudra encore de s'être intéressé davantage à la colonisabilité, c'est le procès qu'on lui fait, et d'écrire davantage sur l'afro-asiatisme que sur la révolution algérienne en cours, alors que il a proposé à part deux fois de s'engager dans la guerre de libération nationale, soit en tant qu'infirmier sur le front, soit en tant qu'historien de la Révolution. Il a reçu, pour vous dire, aucune réponse à ces deux requêtes.
Une sorte de réponse silencieuse,
oui, voilà.
comme on dit souvent. Continue à cerner, si vous permettez l'expression, le personnage et à croquer son portrait. Quelle a été sa formation?
Alors, tout d'abord, il naît à Constantine, mais avec sa famille, ils reviennent, donc il s'installe à Tébessa. À Tébessa, il sera dans l'école.
Tébessa étant une ville de l'Orient algérien, presque proche de la frontière tunisienne.
Tunisienne, exactement. Donc, il sera, voilà, comme tout enfant indigène musulman, soumis à un double cursus, déjà très tôt, un cursus dans l'école française réservée aux indigènes.
Et à Tébessa, il n'y avait qu'une seule école, qui est curieux pour la taille de la ville.
Exactement. Et en même temps, l'école coranique, parce que le peuple algérien a toujours voulu quelque part lutter à sa manière contre toute tentative de dépersonnalisation de sa culture. Donc, voilà, il grandit, il obtient son certificat d'études et il va à Constantine. Il s'inscrit dans la classe préparatoire à Sidi Djelis, donc à Constantine, le temps d'entrer dans la médersa. La médersa, à ne pas confondre avec la madrassa. La madrassa, ce sont des écoles musulmanes fondées par Nidam el-Mulk de la dynastie des Seldjoukides.
Le grand vizir Seldjoukide.
Exactement.
Dans Al-Ghazali, l'Al-Ghazal des latins, sera titulaire, on aurait dit de nos jours, d'une chaire à la Nizamiya de Bagdad.
Exactement.
Nizamiya du nom de Nizam el-Mulk, donc une madrassa.
Donc cette madrassa a entre 9 et 10 siècles déjà, et vous avez donc les médersas. Les médersas ont été fondées au milieu du 19e siècle par l'administration coloniale française. Pourquoi ? L'administration coloniale française a mis la main sur, considère le territoire algérien dès 1934 comme faisant partie du territoire. Elle met la main sur les biens des Habous, c'est-à-dire des fondations pieuses qui permettaient de financer le culte musulman algérien de manière assez autonome.
Et Habous, mot qui veut dire bien de main morte.
Oui. Donc ces fameuses fondations pieuses qui existent encore d'ailleurs dans le monde musulman. Et vous avez les gouvernements français qui doivent gérer de facto, de manière administrative, le culte musulman. Et donc, sachant que le culte musulman n'a plus les ressources pour financer son propre exercice, c'est l'État qui doit gérer. Il y a 3 départements à partir de 1848, la Deuxième République en Algérie, et il y a une médersa dans chaque préfecture, ces 3 départements. Et donc une à Oran, une à Alger, une à Constantine. Malek Benhabi va se former dans cette médersa au même titre que son père, et au même titre que son oncle. Il va se former pendant 4 ans, il sera diplômé, et à ce moment-là, à Constantine, il y a un homme qui est en train d'émerger, qui s'appelle le Cheikh Abdelhamid Ben Badis, donc qui a été formé, donc c'est un savant musulman algérien qui a été formé en Orient, qui est venu en Algérie, qui a fondé les écoles libres et qui a formé un certain nombre d'étudiants. Et ces étudiants seront au contact de Malek Benhabi et de tous ces médercéens tels qu'on les appelait à l'époque.
Oui, alors il ne va pas faire que des études classiques. Comment se fait-il qu'il s'est orienté vers des études d'ingénierat en électricité, en mécanique? C'était à l'école Sudria.
Exactement, ça c'est la deuxième période. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre 1925 et 1930, il fait un premier voyage en France, il revient, il essaye de trouver donc un travail en tant qu'auxiliaire de justice musulmane à Tébessa, à Constantine, et finalement il finit par travailler à Aflou. Aflou, porte du désert, on est un peu loin, il travaille un temps et il revient. Il essaye de trouver du travail, mais il n'y arrive pas.
Là, il agit en observateur, quasiment en anthropologue, en sociologue, en ayant une vision sur la population de la ville d'Aflou.
Là, vous mettez le doigt sur, effectivement, un trait de caractère qui sera très intéressant. Quand il va à Aflou, qu'est-ce qu'il voit? Il voit finalement une désertification progressive sur un certain nombre de terres fertiles. C'est-à-dire que le désert commence à remonter. On est dans une société colonisée. Et ce jeune homme qui a 22 ans, quand il revient à Constantine, va voir le Cheikh Abdelhamid Ben Badis. Ce grand et vénérable cher pensait qu'on allait, à un moment donné, ce jeune allait lui demander comment faire la prière, comment faire les ablutions. Voilà que tout d'un coup, un jeune de 22 ans lui pose la question, est-ce que vous vous êtes intéressé à la désertification? Là où finalement ce réformisme musulman s'intéressait d'abord aux questions théologiques, juridiques, voilà qu'on lui pose des questions d'ordre écologique, environnemental. Donc, merci de me relancer, parce que du coup, ça nous donne également, on met le doigt sur effectivement un homme déjà qui est très observateur. Finalement, il ne trouve rien. Il arrive donc en 1930, on célèbre le centenaire de la colonisation en Algérie, et à l'aide de ses parents, finalement, il vient en France. Et là, c'est la deuxième étape de sa scolarité. Il veut s'inscrire à l'Institut des études orientales pour, dans un second temps, devenir avocat. On lui signifie un refus qui n'est pas motivé. Ensuite, il s'inscrit à l'école TSF, et parce qu'il avait finalement un appétit pour les études théoriques, on lui suggère de s'inscrire dans l'école Sudria. S'inscrivant dans cette école Sudria, il y a effectivement un homme qui était à l'époque de Constantine davantage littéraire, qui a découvert les écrits de Mohamed Abdou, les écrits d'Ibn Khaldoun, d'Ahmed Reda, donc ce réformisme musulman donc les écrits de grands réformistes musulmans et en même temps du grand historien Ibn Khaldoun, et en même temps c'était quelqu'un qui lisait et qui était très intéressé, notamment par son enseignant Monsieur Martin, par toute la littérature française. Et donc voilà qu'on a un homme qui se forme.
Et occidental ou universel.
Et même quelqu'un comme Tagore. Donc vous avez également cette formation en Algérie littéraire dans 3 grandes civilisations. Civilisation occidentale, civilisation musulmane et civilisation indienne. Et voilà que quand il arrive à Paris, il se forme en tant qu'ingénieur.
Il était même intéressé par Romain Rolland, qui lui-même s'intéressait au Swami Vivekananda et à Ramakrishna.
Exactement. Il a eu un très grand respect pour Romain Rolland. Et le travail qu'il a fait justement pour faire découvrir cette pensée, cette spiritualité indienne, la pensée des Védas, en France. Et Romain Rolland, ça a été un des intellectuels français qui l'a beaucoup marqué. Donc, voilà, Malek Benhabi, c'est des tensions. C'est des tensions. Tébessa, ville plus modeste, Constantine, grande ville, l'Algérie, la France, et études littéraires, études scientifiques. Et Malek Benhabi, c'est aussi dans les années 30, quelqu'un qui, dès 1936, est capable de s'adresser aux élites musulmanes quand elles faillissent. 1936, une délégation du Congrès musulman algérien, emmenée par la Fédération des élus et l'Association des oulémas, se rend en France, rencontrer le gouvernement du Front populaire dirigé par Léon Blum pour parler du cas algérien. Lui a considéré que le travail de l'Association des oulémas, qui consiste à éduquer, à édifier des personnalités musulmanes pendant 10 ans, dès lors qu'ils rentrent en politique, ils ont quelque part failli à leur mission. Et il va, du haut, là, en 1936, il a 31 ans, s'adresser à eux. De la même manière, à la même époque, Ferhat Abbas, quand il écrit son article...
Et qui est la date de la fondation de l'Association des oulémas au sens administratif, en 1931.
Alors, elle a commencé en 1931. Et on a donc également un article non publié de Malek Benhabi à cette époque-là, où il écrit, il répond à Ferhat Abbas, à son fameux article « La France, c'est moi ». Donc ça, c'est Malek Benhabi qui est capable d'interpeller, d'apostropher, diront certains, les élites indigènes musulmanes. Et en même temps, Malek Benhabi, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible, très attaché à éduquer, à édifier des personnalités. Et quand, en 1938, on lui demande de diriger le centre culturel du Congrès musulman algérien à Marseille, où il est face à des personnes qui ne savent ni lire ni écrire, il prendra ce rôle à cœur et c'est là qu'il commencera à développer sa théorie de la culture. Et il va mettre au point un programme d'édification culturelle de gens qui n'ont jamais été à l'école. Au point que...
Le fameux l'alphabétisation des adultes.
Exactement. Là, on est vraiment dans l'idée d'université populaire. On est là dans la vulgarisation du savoir, l'édification d'un individu par la culture. Et cette expérience marche tellement bien que la même année, au bout d'un certain nombre de mois, il est reçu par un inspecteur de l'éducation nationale qui lui signifie que pour des raisons... dit-on, administrative, ils doivent...
Qui n'auraient pas le diplôme requis pour alphabétiser les adultes.
Exactement. Voilà, et que effectivement, le local ne répond pas à toutes les conditions de sécurité, que sais-je encore.
Un mot peut-être, ça ne concerne pas directement Malek Benhabi, vous parlez effectivement de tension, mais la délégation des oulémas, le pluriel, le générique, des savants, des docteurs de la loi, lorsque Benhabis vient plaider la cause de la séparation des deux ordres auprès du Conseil d'État, et il sera débouté, c'est-à-dire que la loi dite de séparation du 9 décembre 1905 n'était pas appliquée outre-Méditerranée. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a une volonté, et Benhabi insistait à ce que cette loi fût appliquée, et le refus n'est pas venu du côté qu'on pense. Donc la fameuse idée de l'incompatibilité irréductible entre le fait islamique et la laïcité n'est pas, en tout cas dans les années 30, pas ce qu'on croit maintenant.
Oui, alors sur ce point-là, Malek Benhabi était d'accord avec l'Association des oulémas. Effectivement, 1905, il y a la loi de séparation des églises et de l'État qui est appliquée en France. Il y a 3 départements français en Algérie. Et paradoxalement, de manière totalement contradictoire, cette loi de séparation des églises et de l'État ne sera jamais appliquée en Algérie. Et des personnes comme le Cheikh Benhabi et l'Association des oulémas, mais pas seulement, mais je veux dire, l'Association des oulémas, aujourd'hui, ils seraient considérés comme des méchants islamistes. Et ce sont ces méchants islamistes, je mets des guillemets, qui, à un moment donné, demandaient la simple application, la stricte application de la loi 1905. Et ce sont des gouvernements dits progressistes, notamment je pense au gouvernement du Front populaire, qui a refusé. Et en tout cas, cette prise de position de l'Association des oulémas a toujours bénéficié du soutien de Malek Benhabi.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons du penseur Malek Benhabi, et celui qui nous le présente est Jamal El-Hamri, islamologue, diplômé à l'École pratique des hautes études et qui prépare une thèse de doctorat à l'Université de Strasbourg. Il préside l'Académie française de la pensée islamique à Paris. Jamal El-Hamri, maintenant qu'on a fait connaissance d'une manière très impressionniste, je le dirais comme les peintres du 19e siècle, puisqu'on n'a pas encore fait émerger totalement son portrait, quelle a été sa pensée?
Alors, elle est liée à sa vie. Très tôt dans sa vie, c'est un homme extrêmement observateur qui a un vrai penchant pour les observations sociologiques, micro-sociologiques, diront certains de ses élèves. Et la pensée de Malek Benhabi, c'est la pensée d'un homme qui a eu cette formation, qui dans les années 30 a essayé de trouver des débouchés sur le plan personnel, n'a pas trouvé, qui passera la Seconde Guerre mondiale ici en France, et également il sera également contraint également à aller travailler en Allemagne, d'où il rédigera son premier livre, Le phénomène coranique, qui a été détruit lors des bombardements des Alliés. Et quand il reviendra en Algérie après la Seconde Guerre mondiale et qu'il retrouvera son père et ses sœurs, il voudra écrire parce qu'il est dans une précarité sociale extrême, et qu'il veut à travers ce livre soulager un petit peu les souffrances de sa famille, qui considère être un peu de sa faute. Et on pourra y revenir, notamment une relation très ambivalente avec le grand orientaliste Louis Massignon. Donc il écrit son premier ouvrage, et c'est un premier succès. Donc le phénomène coranique. Donc il va écrire sur le phénomène coranique. Son objectif, c'est de prouver effectivement que déjà le Coran est un phénomène en soi, que la défense de l'authenticité...
C'est un phénomène en soi au sens philosophique du terme, un peu comme on aurait parlé de la phénoménologie d'Edmond Husserl.
Exactement. Et il y a en tout cas effectivement une pensée phénoménologique où il considère, où il essaye de prouver finalement on peut, par la rationalité, prouver l'authenticité du Coran, considérer le Coran comme l'aboutissement de la pensée monothéiste, et en même temps donner, parce qu'il pense également dans le cadre d'une lutte idéologique, donner assez d'estime de soi à un certain nombre de savants musulmans pour qu'ils entreprennent ce travail qu'ils considèrent comme collectif autour du Coran, et ne pas à un moment donné, de manière apathique, suiviste, de suivre les travaux des orientalistes sans forcément mettre en place une grille d'analyse, un appareil critique pour juger de la pertinence ou non des travaux de ces grands orientalistes.
Peut-être qu'à ce stade-là, même si ça aurait pu venir un peu plus tard dans l'émission, il y a cette mini-controverse entre lui et Sayyid Qutb, l'idéologue des frères musulmans, à propos du titre où il a, je parle de Sayyid Qutb, où il a enlevé de la civilisation, ou une société musulmane civilisée.
Oui.
Et donc, c'est par écrit interposé qu'ils se sont répondus l'un l'autre, en quelque sorte.
On peut l'aborder maintenant.
Alors, très bien.
Alors, si vous voulez, voilà. Donc, il écrit les conditions, les Beik, les conditions de la Renaissance, vocation
d'Islam. Le Beik étant plutôt un roman.
Un roman.
Alors que les autres, ce sont des essais de réflexion.
Ce sont des essais, effectivement. Il écrira également donc l'afro-asiatisme. Et quand il arrive au Caire en 1956, il va y avoir donc une proximité de Malek Benhabi avec des gens comme Sadat, Naguib, Nasser, des savants d'El-Azhar, et ce positionnement-là, à mesure que ses écrits sont connus, va lui être reproché par notamment l'organisation des Frères musulmans. Et on va le considérer comme un peu quelqu'un qui n'est pas clair dans son positionnement. Et ça va aller en s'exacerbant quand il va à un moment donné écrire sur l'idéologue de référence des frères musulmans à cette époque, Sayyid Qutb. Et effectivement, il voit que, dans un premier temps, il va écrire un livre vers une société musulmane civilisée. Et finalement, il retire ce titre-là et Seyyed Qoutb en parle. Il s'avère que Malek Benhabi lit effectivement cela. Il analyse en fait pourquoi Seyyed Qoutb enlève le mot civilisé. Et il considère que c'est une erreur et qui montre que finalement les théologiens et les frères musulmans ont sombré dans une forme d'apologétique. C'est-à-dire que finalement on pense que les sociétés musulmanes sont civilisées intrinsèquement. Là où pour Malek Benhabi c'est un projet, c'est une tension qui doit animer une société et tous ses membres.
C'est une visée.
Exactement, c'est une visée, c'est un objectif. Et donc, finalement, quand on enlève ce mot-là, il dit, mais cet éminent intellectuel, cet éminent penseur, ne s'est pas rendu compte, finalement, que le fait d'avoir ôté le mot « civilisé », finalement, vous maintenez tous les ferments de ce qu'il a, lui, conceptualisé, c'est-à-dire la colonisabilité. C'est-à-dire que, finalement, c'est la société qui est ignorante. C'est la société qui est... il faut alors donc une société musulmane. Il faut un État musulman. Il faut revenir à la pensée du Coran et s'éloigner de toute forme de polythéisme. Alors que finalement, la pensée de Malek Benhabi, c'est de ne surtout pas rentrer dans ces débats-là et de se dire que voilà, nous formons une et même société et il faut que l'islam, pas l'islam tel qu'il est interprété par toutes ces idéologies ou tous ces courants de pensée, non, l'islam qui est au-dessus, c'est-à-dire finalement ce réservoir fantastique d'énergie spirituelle qui va à un moment donné édifier des individus. Revenons à l'islam et de cet islam-là, retrouvons une cohésion. Là où les idéologues finalement prennent un aspect de l'islam pour flatter un ego et à un moment donné jeter l'anathème sur toutes les autres formes musulmanes qui ne pensent pas comme vous.
Alors est-ce qu'à ce stade, c'est une question que je pose, le fait de dire revenant à l'islam, nous l'avons entendu de nos jours avec les salafistes, c'est le fait de dire revenant à l'islam, lequel, quelle est l'authenticité ou pas du vrai islam et est-ce que le fait de revenir à l'islam des origines et magnifier ces origines-là ne donne pas une sorte de restriction. À juste raison, vous avez parlé d'un réservoir d'énergie, mais est-ce que de nos jours, le travers, c'est le fait de dire revenant à l'islam, mais un islam un peu étriqué?
Alors, merci pour cette question, parce que on l'a très rapidement évoqué, mais Malek Benhabi, au cours de sa vie, se revendique de cette école de l'islah, c'est-à-dire le réformisme musulman orthodoxe, donc à la fois nourri par Cheikh Ben Badis, l'association des oulémas, nourri également par Mohamed Abdou, Jamaluddin Avrani, mais aussi par un islah, réformisme musulman local. Ben Mahanna également, El Medjawi, et qui était également, donc qui avait pour élève Ben Mihoud, qui a été le propre.
Ce sont les prédécesseurs.
Ce sont les prédécesseurs. Donc à la fin du 19e siècle, vous avez déjà un réformisme musulman qui n'a pas attendu d'être irrigué par des sources orientales pour essayer d'entreprendre un réformisme. Donc Malek Benhabi, lui, se revendique de ce réformisme musulman orthodoxe. Mais il va avoir sa propre originalité, sa propre singularité. Pourquoi c'est important de revenir à cela? Parce que sa manière de concevoir le retour aux sources ne sera pas la même et ne sera pas en tout cas la conception majoritaire de la salafia qui donnera progressivement le salafisme et le wahhabisme. Lui, ce qu'il considère, c'est de revenir aux sources de l'islam. Et là, on est dans le cadre de la philosophie de la religion. Il considère que la religion est une fonction. La religion, c'est un réservoir d'énergie. Mais de revenir à la religion, mais ne pas revenir à la première expérience des sources de l'islam. Là où le salafisme et le wahhabisme nous disent encore aujourd'hui qu'ils reviennent aux sources de l'islam, c'est à moitié vrai pour ne pas dire à moitié faux. Oui. Parce qu'on revient d'abord à la première expérience des sources de l'islam et on voit qu'entre les quatre califes, vous avez déjà quatre contextes différents. Entre le contexte du premier calife Abu Bakr as-Siddiq, le contexte du second calife Omar, du troisième Othman et du quatrième Ali, on a quatre contextes différents. Et j'aimerais même poser la question, j'en profite, ils reviennent à la première expérience des sources, mais ils ne posent pas, comme Malek Benhabi, la question de la bataille de Siffin, où vous avez des compagnons du prophète de l'islam qui ont combattu et qui ont vécu sous la même bannière autour d'un même chef spirituel et temporel, Mohammed, quelques 30 ans après, se scinder en deux.
La bataille a eu lieu entre le 20 et le 21 juillet 657. Et donc la question de ces frictions, le mot peut-être même un doux euphémisme, fait en sorte qu'on peut revenir à l'islam des origines sans canoniser la pratique de ces anciens.
Complètement. Moi, à titre... Là, c'est davantage mon opinion personnelle. Je pense qu'aujourd'hui, même le monde musulman n'a toujours pas digéré, mais pas forcément, même pas la bataille de Siffin, n'a pas digéré finalement le jour où le prophète de l'islam est mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait 14 siècles que le monde musulman n'a pas digéré cette journée. Entre finalement des Médinois qui avaient donné le pouvoir à Mohammed, qui tout d'un coup exige, avec cette logique tribale, de reprendre un pouvoir qu'ils avaient donné. Entre les émigrés de la Mecque qui considèrent que c'est à eux d'exercer le pouvoir et les partisans des Alides, qui sont pas encore les chiites qu'on connaîtra plus tard, les Alides, Ali qui est en train de s'occuper des funérailles d'un membre de sa famille et qui n'ont pas pu discuter avec les autres et participer à ce débat-là. Aujourd'hui, ça fait 14 siècles que cette question-là, cette journée-là n'a pas été digérée.
Et la bataille de Siffin, je le dis uniquement pour les auditeurs, a opposé les partisans d'Ali et à ceux contre ceux de Muawiya, qui sera le fondateur de la dynastie Omeyyade par la suite. Revenons, si vous voulez bien, Jamal al-Hamri, à Malek Benhabi et à ce concept considérable, enfin de portée épistémologique considérable, qui est celui de la colonisabilité, ce néologisme qui rend compte à cette idée que les peuples, de par leur décadence, deviennent aptes à être colonisés.
Alors, ça a été compris de cette manière-là, mais c'est pas de cette manière que lui a voulu, en tout cas, le promouvoir. Si vous voulez, Malek Benhabi, il vit dans une société colonisée, où la propagande de l'administration coloniale française, c'est de dire également, si vous êtes en retard sur le plan civilisationnel, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas fait comme nous, c'est-à-dire vous éloignez de la religion. Il n'y a pas eu de rupture comme nous, en France, on a eu avec le christianisme, avec l'Église romaine. Et dans le monde musulman, il faudrait passer par cette étape-là si vous voulez, à un moment donné, retrouver votre place dans le concert des nations. Donc, Malek Benhabi fait une recherche historique. Et dans cette recherche historique, il va, à un moment donné, considérer que la civilisation musulmane est passée par trois grandes étapes. La première étape va donc de la révélation coranique, 610, aux alentours de 610, à 657, la bataille de Siffin. Et il considère que cette période-là est la phase de l'âme, où les gens sont capables, à un moment donné, de faire don, un sacrifice d'eux-mêmes, de leurs biens, de leur et pour une cause supérieure. À partir de 657, il considère que c'est un moment historique où il y a une fracture de la société musulmane. Et cette fracture de la société musulmane inaugure cette deuxième phase, la phase de la raison.
Qui pour lui est un palier alors que la première phase est une phase ascendante.
Exactement. Et cette phase ascendante, et je sais que vous êtes très attaché à la maison de la sagesse, la maison de la sagesse à Bagdad et également les bibliothèques de Cordoue, dans l'esprit de Malek Benhabi, ce n'est pas l'apogée de la civilisation musulmane. C'est la phase de la raison. C'est là où, à un moment donné, l'idée religieuse a donné une impulsion à un peuple pour rentrer dans l'histoire. D'autres peuples ont convergé. Et de là, il y a eu une effervescence sur le plan intellectuel. Et considère que c'est la phase de la raison qui va de 657 à 1269, la fin de la dynastie des Almohades.
Et il parle donc de l'homme post-almohadien.
Exactement. 1269, il y a eu 1258 au même moment dans le monde, en Orient, dans le monde musulman, avec la chute de Bagdad.
À 11 années de différence, la chute de Bagdad sous Hulagu, le pontifice de Genghis Khan, et en 1269, il y a la chute de la dynastie Almohade.
Exactement. Et ça inaugure cette troisième période qu'il considère comme le retour à l'instinct primitif. La religion ne joue plus son rôle, la société s'atomise, et là où l'islam donnait, si vous voulez, une identité au-dessus des identités tribales, claniques, ethniques, finalement cette idée religieuse n'a plus son rayonnement, et la société se désagrège. Et dans une société qui se désagrège, finalement, c'est on chasse l'idée religieuse, on chasse la fonction sociale de la religion, et c'est le règne du maraboutisme. C'est le règne de la société post-almohadienne et de l'homme post-almohadien. C'est-à-dire un homme qui finalement démissionne, ne fait plus l'histoire, et dans un état végétatif, c'est-à-dire qu'il n'est ni totalement dans l'au-delà, ni totalement ici-bas. Et cette société désagrégée avec des individus qui, je me permets l'expression, planent, finalement, quand il va y avoir la colonisation algérienne qui a commencé en 1830, la colonisation française va jouer un rôle à son insu. C'est-à-dire que c'est pas, elle ne vient pas par philanthropie, mais elle vient à son insu casser un ordre social qui était déjà décadent. Et de la même manière que quand nous sommes ensemble, si une tierce personne arrive, là où autrefois nous avions une forme d'animosité entre vous et moi, une troisième personne qui arrive crée à son insu une forme de solidarité, parce qu'on se méfie de cette troisième personne. Et là, en l'occurrence, le colonialisme français considère tous les Algériens de la même manière. Finalement, le colonialisme permet à ces populations donc nouvellement colonisées de se dire nous partageons une identité commune, nous avons un ennemi commun et nous avons besoin d'un islam dépouillé de ses particularismes pour résister. Et ce qu'on va voir également avec l'émir Abdelkader, l'Ala Fatman Soumer, la révolte de Mokrani durant tout le 19e siècle. Donc, c'est pour ça que, et dans tous ses autres écrits, ça a été très mal pris par le mouvement national algérien qui avait demandé à partir de 1945 que les intellectuels algériens élaborent une doctrine. Ils ont dit, nous avons un mouvement national algérien, nous n'avons pas de doctrine. Et l'essai de Malek Benhabi, les conditions de la Renaissance, s'inscrivent dans ce contexte-là. Le problème, c'est qu'on s'est arrêté sur le terme de la colonisabilité, qui est un ensemble de carences morales et sociales de l'homme musulman, de la société musulmane. Et lui a voulu, si vous voulez, à un moment donné, analyser, avoir une double critique. Critiquer le colonialisme en tant que système et en tant que faillite morale de l'Occident, mais également de la colonisabilité qui est plus antérieure au colonialisme. Et donc, avec cette profondeur historique, il avait, si vous voulez, cette double lecture, cette double critique, facteur exogène, oui, mais facteur endogène également. Et d'abord, parce que lui, et la notion de réforme, il fait partie, il est réformiste. La réforme, pour lui, elle se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Donc des facteurs endogènes vers les facteurs exogènes.
Alors pourquoi cette notion de colonisabilité n'a été perçue que comme une sorte d'anathème, voire une autoflagellation, alors qu'en réalité, il y a ces raisons extrinsèques, ces facteurs exogènes d'un côté et les facteurs endogènes de l'autre? C'est simplement pour savoir sortir du marasme, trouver un bon diagnostic afin de lui appliquer la bonne médication.
Alors la pensée de Malek Benhabi, c'est une pensée exigeante. Et si vous voulez, cette pensée exigeante, elle fait quelque part, le contexte politique est secondaire. Et quand vous considérez le contexte politique comme secondaire, vous vous faites des ennemis chez un certain nombre d'idéologues. Et on a considéré par exemple que ce travail sociologique de théorisation à partir d'observations concrètes, ce travail-là a été considéré par un certain nombre de personnes du mouvement national algérien comme une concession au colonialisme. Et là, on est dans un contexte, si on considère que que la guerre d'Algérie a commencé en 1945. Quand en 1949, vous conceptualisez la colonisabilité, on a l'impression, je me mets à la place également du mouvement national algérien, que Malek Benhabi signe un chèque en blanc au colonialisme. Or, ce n'est pas le cas, pas du tout. Il considère d'ailleurs que, en posant la question de la colonisabilité, le colonialisme tombera comme un fruit pourri, si je peux me permettre l'expression. Et qu'une fois que l'indépendance sera là, finalement, qu'est-ce qu'on construit comme société ? Si finalement on est là tous à se à avoir une identité, une cohésion à partir finalement d'un ennemi commun. Quand cet ennemi commun part, qu'est-ce qu'on construit ensemble? Qu'est-ce qu'on partage ensemble? Et Malek Benhabi, dès 1949, pose cette question-là. Qu'est-ce qu'on partage ensemble? Cette identité musulmane, très bien. Mais il va falloir que cette identité musulmane, la conception que l'on a de l'islam, doit dépasser les particularismes pour créer une vraie cohésion. Et malheureusement, quand on est dans un contexte de libération nationale, on n'a pas le temps de se poser ce genre de questions. Il n'y avait pas d'espace, à mon avis, intellectuel pour lui permettre de discuter de ces choses-là. Et les gens avec qui il a grandi dans l'entre-deux-guerres, ceux qui animent et qui feront la guerre de la libération nationale, ils ont une vingtaine d'années. Malek Benhabi, il a déjà plus de 40 ans. Et donc, il y a un clivage aussi, un clivage générationnel extrêmement important qu'il faut prendre en compte. Et en même temps, la personnalité de Malek Benhabi, c'était quelqu'un aussi qui était fier, qui était susceptible. Et à un moment donné, peut-être que lui aussi n'a pas su faire également peut-être les pas qu'il fallait pour justement essayer de faire en sorte que cette pensée soit acceptée.
Alors, j'ai même entendu qu'il aurait été un brin de folie, quelque part, mais qui caractérise les hommes de génie. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Jamal Al-Hamri aujourd'hui pour parler du penseur Malek Benhabi qui nous le présente dans une monographie « Une vie au service d'une pensée » chez l'éditeur Al-Bouraq. Jamal Al-Hamri est islamologue, diplômé de l'École pratique des hautes études et qui prépare une thèse de doctorat à l'Université de Strasbourg et qui préside l'Académie française de la pensée islamique. Pour cette dernière partie de l'émission, Jamal Al-Hamri, parlons, si vous voulez bien, de la réception de son œuvre, de sa pensée, aussi bien de par le monde, et notamment le monde islamique, mais pas uniquement, qu'en France. Et peut-être, si vous voulez bien aussi, dire un mot sur la fin de sa vie, puisqu'on lui avait donné quelques responsabilités dans l'Algérie indépendante, mais il a dû démissionner aussi.
Alors, si vous le voulez bien, je vais commencer par cette partie biographique. Donc, effectivement, il sera en Égypte, il sera en débat également avec des grands intellectuels, des grands idéologues musulmans, et il reviendra en Algérie qu'à partir de 1963, un an après. L'indépendance de l'Algérie, Ben Bella le fera venir à Alger pour lui proposer d'ouvrir un centre d'orientation culturelle, à partir justement de ses travaux sur la culture. Et il va donc s'atteler à la tâche et ça va traîner. Et donc de 63 à 65, Ben Bella est encore au pouvoir. En 65, il y a le coup d'État. Boumediene arrive au pouvoir. Entre-temps, il était directeur de l'enseignement supérieur en Algérie. Et en fait, son centre d'orientation culturelle, il va l'ouvrir chez lui. Et on voit qu'à partir de... dans les dernières années de sa vie, les cinq dernières années de sa vie, il va former un certain nombre de jeunes étudiants algériens à sa pensée, à ses idées, et dont certains vivent encore aujourd'hui.
Les Benaïssa, les Boukro.
Voilà, Rachid Benaïssa, Omar Benaïssa, Abdelrahman Benamara, Nordin Boukro, et on pourrait en citer également d'autres, mais et qui ont fait un travail éditorial remarquable, de transmission remarquable. Je profite de l'émission pour leur rendre hommage également. Et en 73, il meurt à Alger, et c'est vrai que sa pensée, on ne va pas en parler, et je vous le rappelais un petit peu en début d'émission, là, le gouvernement algérien va davantage parler de la pensée d'un France Fanon. Et cette injustice-là, finalement, va faire que ses élèves vont faire preuve de zèle pour essayer de promouvoir cette pensée-là. Et cette pensée-là, elle est venue en France.
Et notamment par ses ouvrages, vous avez lu aussi le témoin du siècle. Et en France, quelles sont les bribes, les jeunes pousses aussi de ceux qui s'y attellent, qui la pénètrent. Est-elle difficile d'accès, cette pensée, ou pas ?
Elle est clairement difficile. Moi, ça fait maintenant 10 ans et je me rends compte qu'à chaque fois, en faisant de la recherche, des aspects nouveaux que je découvre. Donc, la pensée de Malek Benhabi, il faut, je pense, avoir, comme la pensée de tout grand intellectuel, avoir beaucoup d'humilité, prendre le temps. Le problème, c'est qu'effectivement, dans ceux qui s'y intéressent, on la trouve intéressante, enrichissante, rafraîchissante. On prend des concepts, colonisabilité, parfois même des éléments un peu de critique, la boulitique, pour dire les gens qui sont dans la politique politicienne.
La klepto-intellectuelle ou
Les intellectomanes.
Les intellectomanes,
voilà. Il y a certaines personnes qui aiment reprendre finalement le moins bon côté de Malek Benhabi pour régler leur compte. Donc, il y a beaucoup de cadres musulmans aujourd'hui qui s'intéressent à la pensée de Malek Benhabi. Beaucoup ont lu leurs travaux dans les années 80-90, mais il y a eu très peu de gens qui ont repris ces travaux pour essayer à un moment donné d'être dans une approche critique aujourd'hui en France. Nous sommes très peu. Il y a eu les travaux d'édition de Omar Ben Issa, Abdelrahman Ben Amara, donc avec les grands thèmes qui ont publié leurs travaux. Et beaucoup de livres que moi, à titre personnel, j'ai dû commander d'Algérie. Et pour reconstituer, si vous voulez, l'œuvre, c'est un travail en soi. Malek Benhabi, il y a un Malek Benhabi dans ses ouvrages doctrinaux, Conditions de la Renaissance, Vocation de l'Islam, l'afro-asiatisme. Vous avez un autre Malek Benhabi dans ses articles, plus de 150 articles, où il commente l'actualité. Et là, vous avez une pensée, si vous voulez, dans un contexte historique concret. Et vous avez un troisième Benhabi dans ses mémoires. Et si vous n'avez pas, à un moment donné, toute son œuvre, vous ne pouvez pas vous atteler à un travail sérieux de la vie et de la pensée de Malek Benhabi.
Alors, il y a encore deux autres aspects, Jamal El-Hamri. Le premier, c'est son triptyque au niveau de sa doctrine, l'individu, la société, la communauté. D'autres penseurs y avaient pensé. Il y a aussi la notion de personne qu'on retrouve chez Emmanuel Mounier, oui. Le personnalisme. Mais aussi, à un moment donné, quand il était au Caire, il va parfaire davantage la langue arabe pour donner des conférences en langue arabe et écrire cette fois-ci en langue arabe et non pas traduire ce qu'il a écrit en français.
On en retrouve d'ailleurs une parmi les archives sur YouTube. Qu'on peut voir Malek Benhabi en train de parler effectivement en langue arabe. Je pense que la langue française, elle a été sa formation en France, son épouse, sa belle famille, le fait d'avoir lu énormément. C'est un grand lecteur.
Son épouse, Khadija Philippon.
Exactement. Khadija Philippon. On se rend compte effectivement qu'il y a une tournure d'esprit qui est assez intéressante. C'est-à-dire quand, dès lors, là, vous avez quand même un produit intellectuel, un penseur qui a une double formation, un double référentiel, et quand il y a une synthèse qui se crée, ça donne une pensée extrêmement féconde. La pensée de Malek Benhabi, vous l'avez rappelé, elle est sous forme pyramidale. Effectivement, il y a un premier niveau, c'est l'homme. L'objectif, c'est effectivement d'être dans le renouvellement de l'homme, et il pose une question intéressante. L'individu musulman a-t-il les possibilités d'un être civilisateur ? Ça, c'est le premier niveau de pensée si on considère le système benhabien comme une pyramide. Vous avez un deuxième niveau ?
Pardon, peut-être avant d'aller au deuxième niveau. Oui. Et la civilisation, pour lui, c'est établir le bien, la sécurité pour tous.
Oui, je peux vous lire la civilisation. Pour Malek Benhabi, là où pour un Fernand Braudel, par exemple, les civilisations, c'était des sociétés, des espaces localisables, des économies, des aires culturelles, des mentalités collectives, des psychismes collectifs, pour Malek Benhabi, il donne une définition davantage fonctionnelle. Pour lui, c'est l'ensemble des conditions morales et matérielles qui permettent à une société d'accorder à chacun de ses individus, dans chaque phase de son existence, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse, l'assistance qui lui est nécessaire dans cette phase de développement. L'école, l'atelier, l'hôpital, l'organisation vicinale, la sécurité sous toutes ses formes, sur tout le territoire, le respect de sa personne sont des formes d'assistance que la société civilisée veut et peut dispenser à l'individu.
Oui, alors vous avez dit d'une manière exhaustive et dans le texte, ce que j'ai résumé en un mot, c'est réunir effectivement les conditions du bien-être et de la sécurité.
Conditions morales, conditions sociales. Et Malek Benhabi, justement, dans un souci de transmission et de manière arithmétique, c'est son côté scientifique, dira que la civilisation, c'est égal à l'homme, le sol, le temps, tout ça mis en branle par l'idée religieuse. L'homme, le sol et le temps, il y en a partout, mais il dit que la civilisation n'est pas un phénomène spontané. Et il faut effectivement une idée religieuse qui va donner des motivations nécessaires pour l'homme, afin qu'il rendre le territoire là où il est puisse se développer et que le temps soit efficace. Malek Benhabi considérera également que l'idée religieuse, c'est pas uniquement l'islam, ça peut être le communisme, ça peut être également d'autres philosophies, d'autres sagesses.
C'est-à-dire une sorte d'idée religieuse fut-elle séculière.
Exactement. Et pour lui, le communisme, c'est une idée religieuse, parce qu'elle répondait à une promesse à la fois majeure, c'est-à-dire l'idée d'un paradis terrestre, et en même temps une promesse mineure, c'est-à-dire finalement le bonheur d'une société sans classe, par exemple. Il considère également que le Japon a fait ce renouvellement civilisationnel. Il considère que la Chine et l'Inde ont fait ce renouvellement spirituel. Et il considère qu'à un moment donné, ils ont fait...
Spirituel ou civilisationnel alors, pour la Chine
Alors, justement, pour lui, c'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. Par exemple, dans le cadre du Japon, il considère que le Japon a su faire ce que le monde musulman n'a pas su faire la synthèse et l'harmonie entre l'authenticité et la modernité.
En revanche, pour la Chine, est-ce qu'il y a encore des ferments de spiritualité dans la révolution de Mao ou pas?
C'était ça. Alors, dans la révolution de Mao, il sera très impressionné par la révolution culturelle qui a, sans forcément s'attacher à des choses, on va dire, annexes, effectivement, où les écarts qu'il y a entre l'objectif de la révolution culturelle et malheureusement certains types de massacres. Il considère effectivement que la révolution culturelle, c'est peut-être ce qu'il fallait également au monde musulman.
Merci, merci infiniment Jamal Al-Hamri de nous avoir présenté l'œuvre et l'homme Malek Benhabi, ce penseur algérien contemporain, enfin un homme du XXe siècle. C'était question d'islam. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est toujours Sylvia Favre. La prise de son est assurée aujourd'hui par Jean-Richard Dufour. Et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.
Thank you.